Les Liserons Lisent est une association étudiante fondée en 2023, mais qui était déjà née de manière informelle depuis plus d'un an, du plaisir de lire ensemble d'abord, puis de partager des textes littéraires qu'on aime. Car la littérature, pour nous, c'est la vie. Et que tous ces textes enfermés dans les livres, il faut les libérer.
Pour éloigner l'idée selon laquelle on n'étudie que des auteurs morts, nous donnons voix aux textes.
Nous lisons partout, avec tout le monde. Personnes âgées, clients de boulangerie, enfants, étudiants, petits et grands.
C'est dans cette même optique, pour donner voix et vie aux textes, que nous avons créé l'émission De Pages en Ondes, qui entame cette année sa deuxième saison.
Nous sommes une petite vingtaine, donc vous entendrez à chaque émission des voix différentes, mais toujours avec le même objectif. Vous faire partager le temps d'un épisode, le plaisir que nous avons à nous réunir autour de textes qui éclairent le monde et la vie d'un jour nouveau, qui élargissent le monde. Et avec aujourd'hui les voix de Laurine,
Juliette,
Marie-Lou,
Dominique,
Agnès,
Muriel
et Nathanaël.
Vous écoutez De Pages en Ondes, quand les livres se font voix, quand la radio rencontre la littérature.
Tremblez, carcasse.
Avez-vous jamais tué un homme? C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. D'abord, ça se défend. Puis avec un revolver, par exemple, je n'en parle pas, ça ne compte pas, c'est tricher. Mais avec vos mains, avec vos bras, avec votre corps, ce qui en a sauvé plus d'un, c'est qu'au milieu du travail, on fléchit dans la volonté de tuer. La volonté de tuer, c'est ça l'essentiel. Il y a deux moments difficiles. Commencer, puis finir.
Ce n'est pas encore Halloween, mais on commence de façon tout à fait macabre.
Mais macabre, ce n'était pas le thème de la première émission l'année dernière?
On débute toujours en beauté, en parlant de cadavres et de choses réjouissantes.
En même temps, c'est l'automne, novembre approche, la fête des morts, ça s'impose, non?
De Pages en Ondes, saison 2, nouveau thème, Trembler, carcasse.
Dans Trembler, carcasse, il y a Trembler et carcasse. Et si on commençait par là?
Mépris de la vie et consolation contre la mort. Jean-Baptiste Chassignet, sonnet 125. Mortel, pense qu'elle est dessous la couverture d'un charnier mortuaire, un corps mangé de vers, décharné, dénervé, où les os découverts, dépulpés, dénoués, délaissent leurs jointures. Ici, l'une des mains tombe de pourriture. Les yeux, d'autre côté détournés à l'envers, se distillent en glaire et les muscles divers servent au vert goulu d'ordinaire pâture. Le ventre déchiré, cornant de puanteur, infecte l'air voisin de mauvaises senteurs. Et le nez, mirongé, déforme le visage. Puis, connaissant l'état de ta fragilité, fonde en Dieu seulement, estimant vanité tout ce qui ne te rend plus savant et plus sage.
Burk, c'est dégoûtant.
Ah oui, carcasse là, c'est clair.
Mais il y a Trembler aussi.
Oui, parce que la mort est la peur principale de l'homme, et ce, depuis l'Antiquité.
Jean-Baptiste Chassignet nous décrit une charogne, mais c'est pour jouer de la peur de la mort et surtout nous proposer une morale religieuse.
Le philosophe Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, se fait le porte-voix d'Épicure pour protester contre l'asservissement des hommes à la religion et leur offrir une parole qui libère de la peur. Voici son éloge d'Épicure dans le premier chant de De Rerum Natura, le poème sur la nature.
Humana ante oculos foede cum vita jaceret, interis oppressa gravi sub religione.
La vie humaine gisait honteusement aux yeux de tous, écrasée sur la terre par le poids de la religion qui depuis les régions du ciel montrait sa tête menaçant les mortels de son regard terrifiant, quand, pour la première fois, un grec, un homme, un mortel, osa lever les yeux contre elle et le premier l'affronter. Cet homme, ni le prestige des dieux, ni la foudre, ni le ciel au grondement menaçant ne le retinrent, mais ils excitèrent bien plus l'ardente énergie de son esprit, si bien qu'il désira le premier briser les verrous bien clos des portes de la nature. Ainsi donc, la vigueur vivace de son esprit enleva la victoire et s'avança loin au-delà des murailles enflammées du monde, et par son intelligence et son esprit, Il parcourut le tout immense d'où il nous rapporte, victorieux, ce qui peut ou ne peut pas naître, quel pouvoir limité a été assigné à chacun des êtres et quelle borne existe pour chacun, profondément fixée. Et voici que la religion, soumise, est à son tour foulée aux pieds. Victoire qui nous égale au ciel.
Ne pas avoir peur, d'accord. Se libérer, ok, mais notre objectif aujourd'hui, c'est quand même de vous faire frissonner.
Apprendre à frissonner, tout un programme. C'est celui d'un conte de Grimm que nous ne vous lirons pas.
Mais un des liserons, Gabriel, est assez doué en la matière et a écrit un texte qui effraie et qui dégoûte tout le monde à chaque lecture.
Il s'intitule « Dégoût, jugé sur pièce ».
On dit que la vie grouille, mais que c'est effrayant lorsque ce qui grouille se répand en soi. D'abord un frémissement, puis quelques démangeaisons. On sent dessous sa peau s'agiter quelque chose. Un fourmillement, des bourdonnements arrivent aux oreilles, mais de l'intérieur.
Quelque chose monte, progressivement. Et là, on voit enfin ce dégoûtant cauchemar. La forme de grands vers s'agite sur les chairs des bras. De purulentes plaies infestées de larves assoiffées s'ouvrent à toutes extrémités.
La vie se répand, mais ça n'est pas la vie. Partout sous la surface, d'innombrables yeux éclosent. Mille et une araignées se meuvent contre les tempes et tissent leur ouvrage entre les nerfs et les neurones. Elles se nourrissent d'un cerveau pourrissant, décadent. Leurs petites pattes velues et adorables provoquent sursauts et contractions. On ne peut plus bouger et on cherche à s'enfuir, mais de soi-même, on n'est jamais hors d'atteinte.
On cherche à crier, mais en ouvrant la gueule, d'immondes limaces nous inondent la gorge de leur salive épaisse et salée. Lentement, elles étouffent le langage tout entier.
Le bourdonnement se fait double, comme les cris sans repos d'un animal blessé. Et alors que ce bruit devient insupportable tout à fait, le premier tympan perce et laisse percevoir un long dard qui déchire cette vierge paroi.
Mais rien n'est fini. Et tout aussitôt, une ruche imposante arrache toute chair pour crier « Liberté !» Dans toutes les cavités, les grouillants redoublent d'agitation. De longs vers sinuent entre les jambes glacées. Ces chaudes sensations d'où s'écoule un sang noir font frémir de dégoût et désirer la hache rouillée. Un mouvement maladroit coupe en deux l'un des vers, qui, pourrissant bien vite, nécrose la chair et nourrit les bactéries.
Des puces à cet appel fouillent dans cette terre noire pour en récolter le sang souillé, délicieux nectar de la vie qui fuit. Dans cette ronde chaotique, un somnolent scolopendre perdu entre la nuque et la tempe creuse un large sillon, pourfend la chevelure et hume l'air frais de la viande décomposée.
Parmi tous ces délices, le pire est à venir. Les yeux, inutiles globes, se couvrent de pustules et pleurent tout leur pu, qui rejoint une sueur jaune et sale, odeur d'urine et d'excréments.
De solitaires vers dévorent en meute les organes putréfiés, qui s'affaissent en joyeux prolapsus, se mêlant à la merde et à tous ses gourmands. Ces cafards maladifs et ces mouches chétives elles-mêmes contaminées.
Le cœur même ne tient que par les trompes bruyantes des moustiques se servant à la source.
L'homme là se répand de tous ses immondices. Et alors que la vie s'échappe de tous les pores de son être, une infinité d'êtres dévorant son cadavre, continue l'infâme cycle de la vie.
Vous devez vous dire, il a l'air bien sympathique ce Gabriel.
Et encore, il faut l'entendre en scène slam avec les cris dégoûtés du public.
Clin d'œil d'un siècle à l'autre, comment maintenant ne pas lire la fameuse charogne de Baudelaire ?
On n'a pas pu s'empêcher de vous lire le poème en entier.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux ? Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux.
Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons.
Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint.
Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant.
Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent.
Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir.
Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché.
Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion.
Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Il avait le lyrisme macabre, Baudelaire. C'est quand même une drôle d'idée d'imaginer sa muse en cadavre.
Ce texte-là, on ne va pas le retenir pour notre émission de Saint-Valentin, je crois.
N'empêche, il n'y a pas loin de l'amour à la mort, la petite comme la grande.
Belle transition vers la fin de La peau de chagrin de Balzac.
Raphaël de Valentin a conclu un pacte avec un vieillard qui lui a remis une peau magique, capable d'exaucer tous ses désirs. Mais à chaque nouveau désir exaucé, la peau se réduit, et avec elle, la vie de Raphaël. Il se trouve dans cette scène finale en compagnie de Pauline, sa bien-aimée.
Raphaël tira de dessous son chevet le lambeau de la peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d'une pervenche, et le lui montrant.
« Pauline, belle image de ma vie, disons-nous adieu, dit-il. »«
Adieu ?» répéta-t-elle d'un air surpris.
« Oui, ceci est un talisman qui accomplit mes désirs et représente ma vie. Vois ce qu'il m'en reste. Si tu me regardes encore, je vais mourir. »
La jeune fille crut Valentin devenu fou. Elle prit le talisman et alla chercher la lampe, éclairée par la lueur vacillante qui se projetait également sur Raphaël et sur le talisman. Elle examina très attentivement le visage de son amant et la dernière parcelle de la peau magique. En la voyant belle de terreur et d'amour, il ne fut plus maître de sa pensée. Les souvenirs des scènes caressantes et des joies délirantes de sa passion triomphèrent dans son âme depuis longtemps endormie et s'y réveillèrent comme un foyer mal éteint.
« Pauline, viens, Pauline !»
Un cri terrible sortit du gosier de la jeune fille. Ses yeux se dilatèrent, ses sourcils violemment tirés par une douleur inouïe s'écartèrent avec horreur. Elle lisait dans les yeux de Raphaël un de ses désirs furieux, jadis sa gloire à elle. Mais à mesure que grandissait ce désir, la peau, en se contractant, lui chatouillait la main. Sans réfléchir, elle s'enfuit dans le salon voisin dont elle ferma la porte.
« Pauline, Pauline !» cria le moribond en courant après elle. « Je t'aime, je t'adore. » « Je te veux. Je te maudis. Si tu ne m'ouvres, je veux mourir à toi. »
Par une force singulière, dernier éclat de vie, il jeta la porte à terre et vit sa maîtresse à demi nue se roulant sur un canapé. Pauline avait vainement tenté de se déchirer le sein, et pour se donner une prompte mort, elle cherchait à s'étrangler avec son châle.
« Si je meurs, il vivra. »
disait-elle en tâchant vainement de serrer le nœud. Ses cheveux étaient épars, ses épaules nues, ses vêtements en désordre, et dans cette lutte avec la mort, les yeux en pleurs, le visage enflammé, se tordant sous un horrible désespoir, elle présentait à Raphaël, ivre d'amour, mille beautés qui augmentèrent son délire. Il se jeta sur elle avec la légèreté d'un oiseau de proie, brisa le châle et voulut la prendre dans ses bras.
Le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces. Mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine, dont chaque respiration, creusée, plus savant semblait partir de ses entrailles. Enfin, ne pouvant bientôt plus former de son, il mordit Pauline au sein. Jonathas se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait, et tenta d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin.
Bambini!
cinéma, littérature, peinture, tous les arts s'y mettent dès qu'il s'agit de nous faire peur.
La nuit du chasseur, c'est le cauchemar vécu par deux enfants, poursuivis par un ogre qui se trouve être l'assassin de leur mère. Justement, à la fin du XVIIIe, au moment où triomphait la raison, le cauchemar a inspiré les peintres, en particulier Fuseli, qui a représenté en 1790 une scène qui a eu un tel succès qu'il en a donné plusieurs versions.
Dans une chambre drapée de sombre comme une scène de théâtre, une femme vêtue de blanc est étendue, abandonnée, sur un lit, la tête et les bras déjetés en arrière vers le sol. D'entre les rideaux surgit la tête aux yeux blancs exorbités d'une jument blanche, oreilles dressées. C'est la jument de la nuit, le nightmare. C'est ce que ça veut dire, le cauchemar. Accroupi sur le ventre et la poitrine de la jeune femme, un démon brun ricanant, à tête d'animal, un incube, a possédé le sommeil de la dormeuse. Les pieds de la femme semblent convulsés par la terreur.
Cette scène a eu une grande postérité littéraire.
Chose surprenante, on retrouve presque exactement la même image dans un texte de la poétesse Louise Collet.
Elle a connu à son époque une certaine célébrité, liée sans doute à son talent et à son abondance, mais aussi à sa beauté et à son sens aigu de l'autopromotion via les littérateurs les plus influents de l'époque.
Mais surtout, elle a été la maîtresse en titre de Gustave Flaubert, alors qu'il n'était encore qu'un inconnu de 11 ans plus jeune qu'elle, et qui, pourtant, s'est fait son mentor littéraire dans une très passionnante correspondance.
Le texte que nous allons vous lire est extrait d'un récit de voyage inachevé, Les Pays Lumineux. Louise Collet s'est rendue en Égypte pour couvrir l'ouverture du canal de Suez en 1869. Elle avait alors 59 ans.
En réalité, elle est surtout partie sur les traces du voyage de Flaubert en Égypte et sur celle de la courtisane Kuchu Kanem, avec laquelle il avait partagé une nuit qui, pour lui, avait été comme une union avec l'Orient.
19 ans se sont écoulés depuis ce voyage, 14 depuis la rupture entre Gustave et Louise. Mais alors qu'elle a embarqué sur une felouque infestée de vermine, dans une cabine proche des latrines, un cauchemar se saisit d'elle.
Je fus pendant plusieurs heures la proie d'une hallucination étrange et indéfinissable. L'image morte d'un être aimé, dans mon aveugle jeunesse, ensevelie dans mon cœur depuis plus de 20 ans, s'y ranima tout à coup, dominatrice et brutale. Sa stature de géant se penchait vers moi comme pour me ressaisir, et d'une voix douce mais froide, ainsi que l'air qui sort d'une sépulture fermée durant des siècles, le spectre me disait
« En garde, tu n'as plus la force de marcher aujourd'hui à travers le calvaire que jadis je t'ai fait parcourir. Tu pourras bien y laisser ton corps, comme tu y laisses ton cœur en lambeaux, dans les efforts désespérés pour attendrir le mien, dur métal battu et comprimé entre la double enclume de la science » et de la débauche.
Ma voix étouffée par la souffrance lui répondait indifférente. « Que me veux-tu? Que m'importe ce qu'est ton cœur? Tu n'as plus d'empire sur moi. Ton fantôme s'est englouti dans le néant des choses révolues. »
Mais, opaque et lourde comme une masse animale, la larve obstinée s'asseyait sur ma poitrine brûlante. La lucarne ronde, à travers laquelle scintillaient deux grandes étoiles, figurait sa tête aux yeux effarés, tantôt éclatant et tantôt éteint sous une ombre noire. Je fermais mes yeux pour ne pas le voir, car depuis longtemps j'ai maudit ce spectre malsain dont l'apparition a toujours abattu ma force vitale et paralysé mes élans généreux.
Mais ne le voyant plus, je le sentis encore importun et rude. N'était-ce pas ses mains qui étranglaient ma gorge sifflante et sa bouche souillée qui imposait ses morsures à mon corps alangui? J'entendis au-dessus de ma tête un mouvement continu, semblable à celui des pieds qui trépignent sur un parquet.
Aux morsures succéda un bruit insupportable, comme si ses ongles m'avaient déchiré. Je poussai un cri de douleur plus que d'effroi, car je ne crois pas aux fantômes. Et, me mettant sur mon séant, je rallumai une des bougies éteintes que j'avais placée sous mon oreiller, à côté d'une boîte d'allumettes.
J'aperçus aussitôt, rampant sur ma chemise blanche, tels que des crabes noirs, 5 à 6 de ces horribles insectes nommés cafards. D'autres cheminaient lentement et processionnellement sur les nervures dorées du soubassement de la cabine. Je me mis debout par un mouvement d'épouvante et secouant celles de ces bêtes que j'avais sur moi. Je les écrasais sous la semelle de mes pantoufles. Une puanteur intolérable s'exhala de ces corps morts, visqueux et gluants, comme des cloportes.
Quand on se raconte nos cauchemars entre liserons, c'est quand même plus rigolo.
Un autre récit de cauchemar qui a marqué plusieurs d'entre nous, c'est celui du narrateur, endormi dans la chambre de la défunte Cathy Henshaw, l'amante d'Isclis dans les hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë.
Cette fois, je me souvenais que j'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettait. J'entendais aussi le bruit agaçant et persistant de la branche de sapin et je l'attribuais à sa véritable cause.
Mais ce bruit m'exaspérait tellement que je résolus de le faire cesser s'il y avait moyen. Et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. J'enfonçais le poing à travers la vitre et j'allongeais le bras en dehors pour saisir la branche importune. Mais au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace.
L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayais de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie sanglotait.
« Laissez-moi entrer ! Laissez-moi entrer !
Qui êtes-vous ? »
demandai-je tout en continuant de lutter pour me dégager.
« Catherine Linton, répondit la voix en tremblant. Me voilà revenue à la maison. Je m'étais perdue dans la lande. »
La voix parlait encore quand je distinguais vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coulât et inondât les draps du lit.
La voix gémissait toujours.
« Laissez-moi entrer !»
Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur.
« Comment le puis-je » dis-je enfin. « Lâchez-moi, si vous voulez que je vous fasse entrer !»
Les doigts se desserrèrent, je retirai vivement les miens hors du trou, j'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre, et je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me sembla que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure.
Mais dès que je recommençais d'écouter, j'entendais le douloureux gémissement qui continuait.
« Allez-vous-en » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer. Dussiez-vous supplier pendant 20 ans. »«
Il y a 20 ans, gémit la voix. 20 ans, il y a 20 ans que je suis errante. »
Puis j'entendis un léger grattement au dehors et la pile de livres bougea comme si elle était poussée en avant.
J'essayais de me lever, mais je ne pus remuer un seul membre. Et je me mis à hurler tout haut, en proie à une terreur folle. À ma grande confusion, je m'aperçus que mes hurlements étaient bien réels.
Je vous préviens, c'est impossible de lire ce texte sans écouter Wuthering Heights de Kate Bush. On l'écoute tout de suite avec une spéciale dédicace à Gabrielle dont on a lu le texte tout à l'heure.
Down.
continuer de parler de littérature anglo-saxonne, comment oublier le fameux Frankenstein qui serait né justement d'un cauchemar inspiré à Mary Shelley par celui de Fuseli?
Pour mettre les choses au clair une fois pour toutes, Frankenstein, c'est la créature ou le créateur?
La créature. Eh bien non, c'est le créateur.
Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1h du matin, une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres.
Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, ou dessiner le malheureux qu'avec un labeur et des soins si infinis, je m'étais forcé de former? Ses membres étaient proportionnés entre eux et j'avais choisi ses traits pour leur beauté. Pour leur beauté, grand Dieu!
Sa peau jaune couvrait à peine le tissu des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir brillant et abondant, ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces merveilles ne produisaient qu'un contraste plus horrible avec les yeux transparents qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un blanc terne qui les encadrait, que son teint parcheminé et ses lèvres droites et noires.
Les accidents variés de la vie ne sont pas aussi sujets aux changements que les sentiments humains. Depuis près de 2 ans, j'avais travaillé sans relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais privée de repos et d'hygiène.
Mon désir avait été d'une ardeur immodérée, et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait. Une horreur et un dégoût sans bornes m'emplissaient l'âme. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je me précipitais hors de la pièce et restais longtemps dans le même état d'esprit dans ma chambre, sans pouvoir goûter le sommeil.
Mon créateur a livré son récit. Alors, je vais vous livrer le mien. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Victor Frankenstein.
Dernier segment de l'émission du jour, les danses macabres.
D'abord présentes au Moyen-Âge sous forme de fresques, les danses macabres sont alors accompagnées de dialogues en vers où l'approche de la mort vient rappeler à tous, puissants comme misérables, qu'ils sont égaux, tous, face à elle.
L'acteur.
Ô toi, créature raisonnable, qui désires la vie éternelle, tu as ici une leçon digne d'attention pour bien finir ta vie de mortel. Elle s'appelle la danse macabre, chacun apprend à la danser. Elle est naturelle à l'homme comme à la femme. La mort n'épargne ni petit ni grand. En ce miroir, chacun peut lire qu'il devra un jour danser ainsi. Sage est celui qui s'y contemple bien. La mort mène les vivants. Tu vois les puissants partir en premier, car il n'est personne que la mort ne vainque. C'est pitié que d'y penser. Tout est forgé d'une seule matière.
La mort.
Vous qui vivez, il est certain, quoi que cela tarde, que vous danserez. Mais quand? Dieu seul le sait. Réfléchissez à ce que vous ferez alors.
Vous connaissez les liserons, ils ont un texte à proposer dans toutes les circonstances, et même face à la mort.
Et pourquoi pas Égalité, fraternité de Jean Lahore, pseudonyme d'Henri Casalis, un médecin, ami de Stéphane Mallarmé.
Zig et zig et zag, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse, zig et zig et zag sur son violon.
Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul.
Zig et zig et zag, chacun se trémousse. On entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse, comme pour goûter d'anciennes douceurs.
Zig et zig et zag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement.
La dame est, dit-on, marquise ou baronne, et le ver galant un pauvre charron. Horreur, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le rustre était un baron.
Zig, zig et zig, quelle sarabande, quel cercle de mort se donnant la main. Zig, zig et zag, on voit dans la bande le roi gambader auprès du vilain.
Mais psst! Tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde! Et vive la mort! Et l'égalité!
La mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mère à minuit joue un air de danse zig zig zag sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zig, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zig, zig, zag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Marquise ou baronne, et le ver galant, un pauvre charron. Horreur, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le rustre était un baron. Zig, 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 quelle sarabande, quel cercle de mort se donnant la main. Zig, zig, zag, on voit dans la bande le roi gambadé auprès du vilain. Mais psst, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté.
Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sous forme de podcast sur le site de Radio Campus Amiens. Vous y trouverez aussi un article avec les références de tous les textes lus et extraits entendus. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures liseronesques. Et c'est une fin de tournage!
Ouais, ouais.